Donc, merci beaucoup au professeur pour cette invitation et à vous d'être ici. Et je commence par le texte. Dans le contexte de la politique expansionniste de Louis XIV, la France ouvre de nouvelles voies diplomatiques avec l'Orient, ainsi qu'en quelques décennies, la cour assiste à l'arrivée de l'ambassadeur turc, siamois, marocain et persan. Chacun escorté d'un cortège pittoresque et tous reçus en grande pompe et aucune dépense épargnée. En 1715, le roi Soleil, désormais affaibli par l'âge et la maladie, reçoit à Versailles Mohamed Reza Bey, que vous voyez, l'ambassadeur du Shah Zoltan Hossein. Le dernier souverain de la dynastie Safavide demandait son aide contre les pirates et les Turcs qui menaçaient les navires persans. En échange, il s'engageait à protéger les marchands et les missionnaires français. Comme d'habitude, à la cour de Louis XIV, la réception avait été soigneusement préparée. L'hôtel des ambassadeurs où il avait été logé à Paris avait été orné d'objets d'art et en tenant compte de préceptes coraniques, les décorations à figures humaines avaient été évitées. Le diplomate avait été reçu à Versailles dans l'espace somptueux de la galerie de glace où d'autres ambassadeurs exotiques, tels que les envoyés siamois, avaient été accueillis auparavant. Le roi avait assigné une place à chaque courtisan de manière à les avoir tous alignés autour de lui et il avait choisi une position élevée, plaçant le tronc sur une haute plateforme. Quant à l'ambassadeur, Saint-Simon remémore que, je cite, entra dans la galerie et le splendeur du spectacle acheva de le déconcentrer. Il se fâcha une fois ou deux pendant l'audience contre son interprète et fit soupçonner qu'il entendait un peu le français. La tension entre les diplomates et son interprète était évidente. Plusieurs courtisans, d'ailleurs, se méfiaient de cette ambassade, l'estimant d'une mise en scène organisée par le chancelier Pontchartrain. Un chroniqueur observe que, je cite encore, « Dans cette ambassade, il ne parut rien de réel, et toutes les manières de l'ambassadeur le démentirent, ainsi que sa misérable suite et la pauvreté des présents qu'il apporta. C'était une espèce d'intendant de Provence que Pontchartrain travestit en ambassadeur. » En effet, l'envoyé semblait à l'interprète, je cite encore, « fort embarrassé à soutenir son personnage, où tout lui manquait. Le roi, il disait par contre, fut presque le seul de sa cour qui le crut de bon foi, se trouva extrêmement flatté d'une ambassade perse et voulut que toute la cour fût magnifique le jour de l'audience, c'est-à-dire le mardi 19 février. » La réunion avait été immortalisée dans des nombreuses gravures, comme celle réalisée qu'on voit par Nicolas Langlois, publiée dans les principales gazettes de l'époque. Visant à l'effet scénique à Versailles, l'éclairage anti-scellant de la galerie se reflétait dans les miroirs où chatoyaient également les bijoux des courtisans. Il était prescrit que, et je cite, « les dames portassent toutes leurs pierres dans leurs cheveux ». Et les rois prêta une garniture de perles et des diamants au duc de Maine et une de pierres de couleur au comte de Toulouse. Quant à Louis XIV, encore citation, il avoua un habit d'étoffe noire et or, garni des plus beaux diamants de la couronne. Il en avait pour 12 500 000 livres, au point qu'il ployait sur le poids de cette opulence. Donc, tout était paré pour accueillir Mohamed Reza Bey, le décor, l'éclairage, les costumes de scène, et l'introducteur des ambassadeurs, le baron de Breteuil, observait d'ailleurs qu'un ambassadeur à qui la puissance de la France était entièrement inconnue ne pouvait juger de la grandeur du monarque que par la magnificence extérieure qui lui frapperait les yeux. Jusqu'on ne peut pas recourir à la parole pour communiquer, il faut faire appel à une scénographie visuelle. Si l'envoyé persan était intimidé par le spectacle somptueux assis sur les troncs et entouré de ses courtisans et de sa famille, le roi, qui s'était fort amusé assistant par les fenêtres à l'arrivée de l'ambassadeur, maintenant le regardait de près. À côté du roi, il y avait le directeur de l'Académie de Beaux-Arts, Antoine Coipel, admis à la cérémonie afin de réaliser un tableau célébrant l'événement. Attribuée à lui ou à Nicolas de Largière, la peinture que vous voyez dans les collections du château de Versailles saisit l'instinct de la consigne de la lettre. Dans une galerie encombrée de courtisans, l'ambassadeur persan se prosterne, consignant la lettre du chat. Il est accompagné par sa suite, qui rend hommage au roi de France, ôtant le turban et se penchant à un signe de respect. Bien que dans l'image tout semble se dérouler comme prévu, en fait, les caprices de Mohamed avaient entraîné plusieurs variations chant cérémonial. Il le savait bien François Pidou de Saint-Olon, le diplomate français qu'il avait accompagné à Paris. Saint-Olon, qui connaissait les coutumes orientales, ayant été ambassadeur au Maroc, devait servir de médiateur entre les demandes de l'ambassadeur et les exigences du protocole. Comme la première date fixée pour la rencontre avec le roi de France était, selon l'envoyé persan, astrologiquement inappropriée, un autre jour avait été établi. Et encore sous prétexte d'une indisposition, l'ambassadeur avait été justifié lorsqu'il avait refusé de s'élever pour accueillir les courtisans français. D'autre part, puisque le don qu'il avait offert à Louis XIV avait été modeste, et il s'était adressé à lui prononçant un discours impromptu, il avait confirmé les soupçons de la cour, étant jugé comme un imposteur. La tromperie et la mise en scène étaient des thèmes incontournables dans cette histoire, et comme il était difficile de tracer la ligne entre fiction et vérité, le peintre de cour avait été convoqué. Témoin oculaire de la rencontre, il devait déchiffrer ce qui était caché derrière l'apparence. Il devait regarder attentivement le visage de l'ambassadeur et, en effet, Coypel signe un portrait en collection privée où le visage de Mohamed Reza Bey est vu de près. En considération du petit format, l'œuvre probablement en étude préparatoire. Néanmoins, la vision étroite nous rendre, outre le détail de la coiffe de fourrure, le regard pénétrant de l'ambassadeur. Le peintre nous consigne l'image d'un gentilhomme élégant et séduisant, aux traits presque occidentaux. Les marques moins agréables de son visage ont été atténuées, comme le grand nez irrégulier qui était assez évident dans d'autres portraits. Et le peintre néglige aussi son irascibilité, qui avait impressionné entre autres la duchesse d'Orléans. Je la cite. Quand il entre en fureur, il grince le dent, tire son sabre et son poignard et veut tout exterminer. Ces sautes d'humeur semblent être causées par l'opium dont il fait un usage intensif, le mettant, c'est elle qui parle encore, quelquefois à un si dangereux état qu'on peut le regarder dans ce temps-là comme un espèce de fou qui mériterait plutôt d'être enfermé que traité en ambassadeur. S'il n'avait pas l'air d'un négociateur se désintéressant aussi de la politique française, sa présence exotique animait la vie mondaine parisienne. Tous les yeux étaient sur lui quand il avait assisté à une représentation à l'Opéra de Paris. Il était resté tout le temps assis à la façon orientale, fumant sa pipe dans un riche pavillon décoré pour lui. Cette référence est contenue dans le portrait de Jacques Vigouroux du Plessis, qui le montre dans une loge théâtrale, parée d'un riche tapis oriental. Les attributs exotiques sont mis en évidence. Les costumes et les turbans portés par Mohamed et par sa suite, de même que la pipe à eau qu'il fumait, suscitant la curiosité des Français. En plus de le rencontrer au théâtre, en regardant de loin, le Français, surtout les Françaises, rêvaient d'être accueillis dans son salon, un salon qui, après l'audience de Versailles, était encore plus animé. Poussé par la curiosité et tenté par les récompenses que le riche diplomate, ou soi-disant tel, pouvait élargir, plusieurs dames demandaient d'être reçues. L'invité dans les résidences temporaires de l'ambassadeur, les femmes étaient accueillies dans une pièce ornée de tapis, où elles sirotaient une tasse de thé ou de café, déchaussées et assises à côté de lui. Mais même si la presse française enjolivait la réalité, cette scène de séduction avait allongé la liste de ses conquêtes amoureuses. Durant son séjour à Paris, l'ambassadeur avait attiré les bonnes grâces de la jeune Madame d'Épinay. Cette relation, commencée d'une manière discrète, devint bientôt publique, suscitant beaucoup d'incrédulité. Il était difficile de croire qu'une femme d'une réputation irréprochable et surtout qu'une femme chrétienne puisse, je cite, se livrer au transport amoureux d'un mahométain. Si beaucoup étaient scandalisés, la plupart s'étaient amusés. Et spéculant sur les aventures galantes du diplomate perse, en 1715 avait été publié à Paris, vous voyez le frontispice, le portrait de Mohamed, La Manzolide, nouvelle historique et galante qui contient les aventures secrètes de Mehmet Riza Beg, ambassadeur du Sophie de Perse à la cour de Louis le Grand. Une des images illustrant le roman, bientôt traduit en allemand, et ici on voit cette édition, montrait Mehmet dans sa chambre à l'hôtel des ambassadeurs. L'image était une synthèse de ses attributs exotiques. On voit une sabre recourbée en premier plan et derrière les canapés bas et les coussins sur lesquels a été déposé un plateau avec des tasses de thé et de café. Mais surtout, on voit lui, l'ambassadeur, le turban à la tête et vêtu à l'oriental, qui assis sur ses genoux, fume la pipe. La mise en scène théâtrale avait pris la forme d'une invention romanesque et Mehmed était devenu le personnage, on dirait presque un caractère d'une pièce, dont les éléments constitutifs étaient la séduction autant que la tromperie. L'accueil chaleureux des courtisans dissimulait d'ailleurs un préjugé culturel. Lorsque Breteuil avait rencontré l'ambassadeur dans sa chambre, le voyant assis sur le sol à la façon orientale, les jambes pliées sous son corps, il avait observé, je cite, « qu'au premier coup d'œil, il me parut qu'il s'était un gros singe qui était couché auprès du feu ». Par une parole aigre, Breteuil avait donc transformé en singe le prince des mille et une nuits. Agitant le spectre de l'imposture diplomatique, la cour française remémorait un épisode assez récent quand en 1669, un supposé ambassadeur turc, Süleyman Aga, on voit une image de cette ambassade, avait rendu visite au roi Soleil. L'effort pour accueillir au mieux l'envoyé ottoman, censé par plusieurs d'être un simple greffier, avait été mal récompensé et l'ambassade s'était conclue avec ressentiment des deux côtés. À cette époque, toutefois, l'imposture diplomatique n'était pas rare et dans cette mystification, le costume jouait un rôle décisif. Le diplomate flamand Roger Ghislain de Busbecq, qui au service de l'empereur germanique Ferdinand Ier avait été envoyé à Constantinople, observe que son costume occidental paraît court et modeste comparé à l'ottoman. Néanmoins, il est très malaisé quand, à l'occasion d'une audience avec le sultan, il doit s'habiller comme un turc. Je cite ces mots. « Au moment que j'entrais, me jetèrent sur le corps de grands casaques qui me descendoient jusqu'aux talons et si pesantes que mes épaules étaient à peine assez fortes pour les porter. » Et dans cette pompe qui rassemble à celle d'Agamemnon, qui sur un théâtre va être l'héros de la tragédie, je marchais vers le tronc. Dans le discours diplomatique, la référence au théâtre aux costumes révèle que l'ambassade a vaincu une complexe mise en scène où le changement d'habit peut changer le cours de l'histoire. Il le témoigne le cas exemplaire d'un autre ambassadeur persan. Lors de son séjour à Rome, Antoine Vandeck peint en 1622 le double portrait tableau, actuellement dans la collection britannique de Pertwood House, de Robert Shirley, l'ambassadeur persan en Europe, et de son épouse Thérésia. La carrière d'aventurier de l'anglais Robert Shirley commença en mai 1599, lorsqu'il avait organisé avec son frère aîné Anthony une expédition non gouvernementale en Perse. La mission visait à négocier un accord commercial favorable aux marchands britanniques, se proposant également d'exhorter le Shah à entreprendre une action militaire contre les Turcs, afin de briser le monopole qu'ils avaient sur la Méditerranée. Les frères Shirley furent reçus avec cordialité par le Shah Abbas le Grand, et 100 mois plus tard, Anthony fut envoyé en Europe, ayant le mandat de négocier au nom du gouvernement persan de nouveaux accords politiques. Quant à Robert, il resta 7 ans à la cour du Shah. Considéré comme un otage hôte, et lorsque la mission diplomatique d'Anthony échoua, il prit sa place en devenant le nouvel ambassadeur persan en Occident. En 1607, il quitta donc Ispahan pour aller soigner en Europe les intérêts du Shah, et c'est dans ce but que quelques années plus tard, il se rendit à Rome, où Vandeck le rencontra. La condition de Robert à la cour persane n'était pas idyllique. Il raconte dans une lettre qu'après l'échec de la mission diplomatique de son frère, plusieurs le considéraient « a common liar », c'est-à-dire un menteur ordinaire. Dans l'histoire de Robert, cette accusation revient souvent, et bien que dictée par la malveillance de ses détracteurs, elle attire l'attention sur l'ambiguïté de sa biographie anglo-persane, une ambiguïté que Vandeck fiche dans son portrait, nous consignant l'image d'un occidental accoutumé à l'oriental. L'occasion qui avait transformé Robert en ambassadeur persan s'était présentée par hasard. D'autre part, pendant son séjour forcé en Perse, Robert avait appris la langue et les coutumes du pays. Et en tant qu'affilié à la cour, il avait servi dans l'armée. En outre, afin de compléter le processus d'intégration, il avait épousé une jeune circassienne, Thérésia. Plusieurs chroniqueurs européennes la décrivent comme une consanguine de chat, en imaginant une relation étroite entre Robert et la famille royale persane. Cette histoire, qui probablement a été encouragée astucieusement par Shirley, n'a aucun fondement, mais elle explique néanmoins pourquoi, lors de sa mission diplomatique en Europe, Robert était accompagné par sa femme et pourquoi Fendeck la dépendra à côté de son mari. En se servant de son épouse, Robert avait vanté un crédit qu'il n'avait probablement pas à la cour du chat. C'est un indice éloquent d'une mise en scène qui prend peu à peu les contours d'une imposture. La première mission diplomatique de Robert à Rome eut lieu le 27 décembre 1609, même s'il faut préciser que quelques mois avant, le 28 août, le pape avait rencontré un autre envoyé persan, Ali Goli Bek Mordar. Paolo Leone della Branca, maître de cérémonie de Paul V, décrit dans son journal le cérémoniel de deux ambassades, relevant les différences du protocole. Ali Goli Bek Mordar ne comprenait pas le latin, était accompagné par un traducteur, et en présence du pape, il s'était prosterné trois fois, en lui baisant les pieds en signe de révérence. En outre, selon l'usage persan, il était resté engenouillé pendant toute la durée de l'audience, et observe le maître de cérémonie, toujours avec le turban sur la tête. Cette remarque est précieuse, surtout par rapport à l'ambassade de Robert Shirley. En effet, le cérémoniaire papal observe que même s'il était un ambassadeur du roi Abbas le Grand, il se proclame chrétienne. Et quelques lignes plus loin, il ajoute que si l'autre ambassadeur avait suivi l'usage musulman en tenant tout le temps le turban sur la tête, l'anglais, lors de l'audience, l'avait ôté en signe de respect. L'identité religieuse de Robert avait pris donc les dessous, où il sera plus judicieux de dire qu'il l'avait affiché volontiers lors de sa mission en Europe. À ce sujet, le cérémoniel note que l'orateur était habillé selon le costume des Hongrois et des Moscovites, avec un turban, et au sommet du turban, il y avait une croix. Le turban avec la croix est représenté dans un portrait gravé de Robert Shirley conservé à Londres et réalisé vraisemblablement autour de 1609. Dans cet exemplaire, où sont visibles les signatures de l'Alsacien Matthias Greuter et de l'Espagnol Diego de Astor, on voit le portrait en médaillon de Robert portant le turban vers la croix et en bas la scène de la consigne de la lettre. Robert n'avait pas de lettre à consigner et l'épisode se réfère à la précédente ambassade persane dont la légende ne fait néanmoins aucune mention. Cet apparent malentendu nous révèle comment le mythe de Shirley, ou plutôt son imposture diplomatique, a progressivement pris contour. Mais revenons encore une fois à la description de Della Branca, qu'il nous dit que Shirley était vêtue à la mode des Hongrois et des Moscovites. En effet, avant d'arriver à Rome, il avait fait étape à Cracovie et à Prague, et vraisemblablement, comme prévu par le protocole diplomatique, à chaque rencontre officielle, ses hôtes lui avaient offert des nouveaux habits. Dans la gravure de Londres, Shirley porte un manteau à col de fourrure dont la fermeture est constituée par une série de boucles en cuir. C'est probablement l'élément de la tenue que le maître de cérémonie considérait à la mode russe. En effet, l'échange d'habits du cérémonial diplomatique, évoqué dans le portrait de l'aventurier anglais, est un élément qui occulte sa vraie identité. Et cette ambiguïté renforcée par l'assemblage de parties hétérogènes qui composent son costume. Lorsque Vendeck rencontre Shirley à Rome, plus de 13 ans sont passés depuis sa première ambassade en Europe. Pendant ce temps, l'aventurier anglais avait essayé en vain de conclure des accords avec le roi d'Espagne et d'Angleterre, et en 1615, il avait fait son retour en Perse. Une année plus tard, il avait été envoyé encore une fois en Europe, toujours dans l'espoir d'obtenir une alliance contre les Turcs. Il est difficile de comprendre qui est Robert Shirley en ce moment et qui représente. D'un point de vue diplomatique, sa situation est moins solide. Si les Persans avaient toujours mis en doute sa loyauté, lors de sa deuxième mission, l'aventurier anglais est également exposé à la critique de ses propres compatriotes. L'émissaire anglais à la cour du Grand Mogol le définit malhonnête et intriguant. Même s'il a obtenu audience chez le nouveau pape, Grégoire XV, son crédit politique est affaibli. Dans cette perspective, le sens de l'image peinte par Vendeck devient de plus en plus clair. L'identité diplomatique de Shirley est réaffirmée en dépit de l'imposture. Le costume de l'aventurier n'est pas un assemblage de citations hybrides, mais il est entièrement persan. Shirley porte une robe de soie dont la fermeture est constituée par un long ruban rouge orné d'un bijou et culminant avec un panache, et comme ceinture, il y a une écharpe nouée à la taille. Typiquement persan, son riche manteau est décoré avec des figures et des motifs végétaux. Le costume est décrit minutieusement et l'attention au moindre détail est confirmée par le dessin préparatoire. Pourtant, l'image, dans son ensemble, garde l'ambigu d'une mise en scène qui appelle dans le discours la piste théâtrale. Pendant les années où les aventures des frères Shirley deviennent populaires, la mode persan est citée parfois par la peinture européenne et souvent par le théâtre élisabétain. Dans l'étude pour un homme, un costume oriental de l'architecte et scénographe britannique Inigo Jones, on voit un turban qui ressemble beaucoup à celui de Shirley. Jones l'a imaginé pour un travestissement théâtral. Mais restant dans la même métaphore, un élément déterminant de cette robe persan est l'épouse de Shirley, représentée par Van Dyck dans un portrait qu'on peut estimer complémentaire à celui de l'aventurier. Thérésia est assise à la frontière entre la Perse et l'Europe. Dans le tableau, on retrouve le même drap rouge qui occupait le fond du portrait de son mari. Mais ici, il s'ouvre comme un rideau théâtral en dévoilant un paysage européen, peut-être le souvenir d'un séjour à Rome. Elle est imaginée pourtant dans un intérieur oriental, assise sur un tapis persan, entourée de coussins et habillée richement. Et l'Orient est évoqué par son luxe. La robe, le voile, le diadème, les joyaux sont les signes d'une richesse exhibée. Mais en effet, lors de sa mission en Europe, Robert Shirley avait exhibé Thérésia, sa beauté circassienne, donc caucasienne, sa prétendue relation familiale avec le chat. Thérésia avait contribué à l'imposture diplomatique. Elle, qui avait épousé Shirley en 1607, après le mariage, avait changé son nom et sa foi, devenant ainsi la circassienne noble et chrétienne que l'Europe connaîtra. Dans le tableau de Van Dyck, Thérésia est subtilement ambiguë dans son être suspendu entre deux mondes. Mais il y a un autre portrait où sa conversion aux coutumes occidentaux gagne la scène. C'est le double portrait de Robert et Thérésia dans la collection britannique de la Berkeley House. Les deux tableaux sont attribués à un anonyme peintre anglais et considérant que, en 1624, Shirley avait obtenu une audience avec le roi d'Angleterre, James Ier, probablement, ils ont été conçus pour commémorer l'événement. Celle anglaise sera la dernière mission diplomatique de Shirley, puisque quelques années après, discrédité en Perse et en Europe, il perdra la confiance d'Abba le Grand, trouvant la mort en Perse. Mais alors que l'aventure politique de Shirley s'approche à la fin, le portrait anglais cristallise son mythe. Les éléments de son costume sont similaires à ceux décrits par Van Dyck, le manteau décoré, l'écharpe nouée autour de la taille, le turban avec le bijou. Il tient à la main le bâton du commandement, symbolisant sa dignité politique et militaire. Néanmoins, l'art persan figurant dans le portrait de Van Dyck est remplacé ici par un symbole typiquement occidental, le pistolet que Thérésia tient dans sa main droite. C'est une autre référence à l'histoire désormais légendaire de frère Shirley, qui, selon un des premiers biographes, avait introduit en Perse les armes à feu, fondant le premier corps d'artillerie de l'armée persane. Métaphoriquement, donc, le pistolet est passé de la main de Shirley à celle de sa femme. Mais ce jeu d'échange réciproque n'est pas encore terminé. Thérésia n'a plus l'apparence de la noble persan et ressemble plutôt à une dame anglaise, avec son voile discret et la robe conforme à la mode européenne. La conversion persan de Shirley à celle et celle européenne de Thérésia sont donc la même image inversée. À cette époque, compte tenu de la situation politique très fluide, le thème identitaire est perçu avec une curiosité et une suspicion constantes. La perception et la falsification d'identité déterminent une ambiguïté dont le théâtre diplomatique, avec ses costumes et ses rituels, devient une mise en scène extraordinaire. Les peintres sont les témoins oculaires et ils jouent souvent comme des acteurs, contribuant aussi à créer le spectacle. Mais dans ce tourbillon de rebondissements, on dirait plutôt du coup des théâtres, le fond du problème reste l'identité naturelle, que les vêtements peuvent confondre, même cacher, mais pas effacer. Et la question est encore plus complexe quand on passe du costume à la peau. L'ambition de Louis XIV allait jusqu'en Afrique, d'où il venait, pas comme d'habitude un ambassadeur, mais même un prince. Dans le contexte d'une politique coloniale visant l'expansion française à travers l'instrument de la conversion religieuse, l'épisode avait intrigué la presse. Je lis. Il a eu à Paris un certain Roitelet Nègre, connu sur le nom d'Aniaba, roi des Innis. Messieurs de Caste, chef des filibustiers, l'amena il y a environ 15 ans en France, soit de force, soit de gré, et en fit un présent au roi, qui d'abord pourvut à son éducation et ordonna qu'il fût élevé dans la religion catholique. Par ce moyen, on a fait peu à peu un chrétien, et enfant, il a reçu les baptêmes, a été nommé Louis par ordre du roi, de sorte qu'il s'appelle à présent Louis Aniaba. Son pays est situé, dit-on, sur la zone torride à la Côte d'Or, et n'est habité que par deux nègres qui n'ont aucune connaissance de Dieu. L'histoire donc, que le rédacteur résume brièvement avait commencé des années auparavant, en 1688, lorsque le supposé prince Aniaba avait quitté l'Afrique grâce à l'intermédiation d'un groupe de missionnaires dominicains. Arrivé à Paris sous la protection de Louis XIV, Aniaba avait été élevé dans la religion catholique. Le théologien évêque jésuite Bousset et Madame de Maintenon, la maîtresse du roi, avaient pris soin de sa formation spirituelle et culturelle. Et après son baptême, en 1990, il avait été introduit à la cour. Cependant, le rédacteur insiste sur le détail qui intrigue le plus ses lecteurs, c'est-à-dire la couleur de la peau de ce prince africain. Même s'il est désormais un gentilhomme, il est difficile d'oublier sa nature. Ce Roitelet Nègre, selon la définition que l'auteur de la notice utilise, arrive dans un pays barbare qui n'est habité que par deux nègres qui n'ont aucune connaissance de Dieu. Au fil du siècle, les Français avaient fait la connaissance de l'Afrique à travers des objets ou des animaux exotiques. Et à Versailles, les Africains ne manquaient pas. On les voyait sculptés ou peints comme les serviteurs noirs figurant dans les portraits des courtisans. Si la figure du page noir est souvent adoptée comme notation générique, dans le portrait peint en 1690 par Claude-François Vignon, la présence d'un serviteur noir à côté de princesses de Blois et de Nantes, les filles reconnues de Louis XIV de sa maîtresse, la marquise de Montespan, il semble plutôt une référence historique. En évoquant Madame de Montespan, on rappelle l'histoire de son protégé, Aniaba. Le portrait de Vignon se fige encore une fois dans des stéréotypes. Les signes orientalistes sont rares et génériques, la boucle d'oreille en perles et en arrière-plan, derrière une colonne, le profil d'un obélisque et le dôme d'une mosquée qu'on entrevoit à peine. Le page offre un panier plein de fleurs et sa position au milieu, entre les deux femmes, crée une alternance de noir et blanc. Cette juxtaposition est conçue pour valoriser le blanc. Il éprouve le long châle noir de Mademoiselle de Blois, contraste avec sa robe claire, et l'amant diaphane de Mademoiselle de Nantes appuyé sur l'épaule du page, juste au-dessus de son menton. L'image est disséminée de signaux qu'on cataloguerait aujourd'hui des racistes. Le regard de l'Africain est fixé sur la décolleté de Mademoiselle de Nantes, surpris d'une expression aussi lascive que grotesque. Sa position est symétrique à celle du champ noir que la dame tient dans ses bras. Cette juxtaposition nous suggère que le jeune Africain ne diffère pas de cet animal domestiqué. Ils ont la même couleur et les mêmes yeux exorbités sont semblables. Et surtout, tous les deux, ils portent un collier. Aniaba avait été apprivoisé, transformé en courtisan. Pourtant, en dépit de l'éducation et de la carrière militaire qu'il avait entrepris, sa peau noire rappelait toujours ses origines. Le prince d'Essigny, le portrait gravé chez Bonnard qu'on voit vers 1700 ans, est le dernier acte de cette pièce, réalisé juste avant le retour du prétendu prince en Afrique, lorsqu'il reçut la nouvelle de la mort du roi son père. Le prince est debout, vêtu d'un manteau bordé d'hermine et parsemé d'étoiles. Le cordon blanc avec une étoile qu'il nous indique sur la table est l'ordre de l'étoile de Notre-Dame qu'il avait fondée avant son départ. L'invention iconographique sert à légitimer les prétentions politiques du prince africain. Mais afin de créer un portrait politique crédible, l'auteur de la gravure juxtapose des signaux visuels discordants. Aniaba est habillé comme un courtisan français, à l'exception de la coiffe et des boucles d'oreilles, trahissant ses origines africaines, et surtout à l'exception de son visage, qui, hors de doute, nous rappelle ses racines. Si on se fie à une anecdote qui circulait à Versailles, le roi Soleil l'avait rencontré juste avant son départ et, évidemment, satisfait du travail accompli, aurait prononcé une phrase surprenante. Lui dit, je cite, en riant, « Prends Sanyaba, il n'y a donc plus de différence entre vous et moi que du noir au blanc ». Le roi Anyaba, converti à la foi et aux coutumes occidentales, était donc à tout égard semblable à un roi occidental, à l'exception de la différence du noir au blanc, qui est néanmoins une différence sidérale. En fait, malgré sa nouvelle identité, il était perçu comme un imposteur. Sa supposée descendance royale avait été bientôt remise en question et les événements confirmeront les soupçons des sceptiques. Je cite, « On s'accorde généralement à regarder comme un autre imposteur le nègre Anyaba ou lui Hannibal qui parut à la cour de France. Le fourbe n'eut plutôt pris terre au royaume d'Issynie qu'il se dépouilla de mort française et de la religion chrétienne en quittant les habits français et le caractère français. Il retomba dans un premier état, l'esclavage ou la vie misérable d'un nègre. Bien s'il s'était appelé désormais Hannibal, évoquant l'Africain qui avait traversé les Alpes pour conquérir Rome et son empire, Hannibal, arrivé en Afrique, avait abandonné ses prétentions au trône, recommençant à être ce qu'il était auparavant. À cette époque, les intégrations sont souvent des processus précaires et réversibles, et l'élégant prince noir a donc duré le temps d'un conte de fées. Il y avait de toute évidence quelque chose de féerique dans ce mise en scène étonnante, ces théâtres diplomatiques. En 1715, une foule de badauds avait assisté à l'entrée de l'ambassadeur persan et de sa suite à Paris. Les roues, les balcons et même les toits étaient bondés de spectateurs. Sans faire trop de distinction entre les Perses et les Turcs, la parade conjointe des Islamiques et des Français avait effacé l'image de la guerre, produisant l'effet d'un carnaval inattendu. Le cortège oriental, escorté par la cavalerie royale française, était conduit par l'ambassadeur à cheval et par ses hommes, dont les costumes bizarres et les turbans colorés attiraient une foule curieuse. Les Parisiennes avaient probablement l'impression de déambuler dans un décor de théâtre. Quant à la cour, elle se souvenait peut-être des costumes du grand bal de la Douairière, dansé à Paris au début de le carême en 1626 et offert au père du roi Soleil. Le spectacle s'inscrivait dans la lignée de ballets de nations, valorisant le défilé d'étrangers venant porter un hommage universel au roi de France. Le ballet se composait de 100 parties, étant chacune l'occasion d'une masquerade, supervisée par Daniel Rabel, l'ingénieur ordinaire du roi. Et parmi les 34 entrées d'étrangers étranges, il y avait aussi celle du grand seigneur, à cheval et à pied. Le conte oriental était devenu comique et le faux seigneur grotesque. Le turban exagéré décoré de drôles panaches, la démarche comique, tout comme celle de ses serviteurs qui le suivaient en le réparant avec un parasol. Le rire exorcisait donc la peur de ceux qui étaient potentiellement dangereux dans ces présences indéchiffrables venues de loin. Je vous remercie.
Merci Alessandra Macha d'être revenue sur la question de la diplomatie et des images à travers le prisme très fascinant de l'imposture diplomatique et d'avoir montré comment ces images ne sont pas là seulement pour documenter ces grandes réceptions diplomatiques, mais aussi utilisées comme instrument pour scruter, vérifier et parfois construire ces impostures. J'ai maintenant le plaisir de présenter Dominique Alain Beauharieu, qui est assistant docteur en histoire de l'art des temps modernes à l'Université de Fribourg. Dominique Alain Beauharieu, après des études des beaux-arts à Cluj en Roumanie, à Bruxelles et à Rennes, a soutenu sa thèse de doctorat sur l'iconographie post-révolutionnaire de la décapitation. Je dois dire un travail tout à fait fascinant et qui, heureusement, est en cours de publication et porte pour titre « La tête coupée, clinique, peinture et politique de la décapitation dans la première moitié du XIXe siècle ». Sa recherche postdoctorale porte sur la représentation des tziganes dans la peinture religieuse, au nord des Alpes en général, et sur la prédication de Saint Jean-Baptiste, de Peter Bruegel l'Ancien en particulier. Et ce soir, il va nous présenter une communication sur ce sujet intitulée « Tziganiade selon Callot ». Et donc, je lui donne la bienvenue et lui laisse la parole.